Louis Dauphren.
Bonjour et bon réveil, nous sommes le jeudi 17 octobre. Bonjour Frigide Barjot.
Bonjour Louis, quelle joie de revenir.
Ben oui, c'est sympathique.
Oui,
on se connaît bien, c'est vrai.
C'est vous, je vous rappelle, qui m'avez donné mes premières chances sur cette radio.
Ça remonte déjà, non?
2005.
2005.
Extraordinaire, ouais. Vous savez, ouais. C'était en plein moment de ma conversion. Et je ne savais pas que 3 ans après son élection, j'allais défendre le Saint-Père Benoît XVI sur tous les plateaux de télévision quand il était si attaqué. Mais déjà vous m'aviez déjà donné la parole.
Rien n'était joué en 2005 pour vous.
Rien. Comment
Du point de vue de l'engagement, etc.
Eh bien, manifestement, c'était en chemin.
Ouais.
La progression se faisait. Et puis, il y a eu cette étape très importante de 2009, effectivement. Où Benoît XVI, qui venait de passer un voyage en France magnifique, nous étions allés l'accueillir aux Invalides, déjà aux Invalides, à plusieurs centaines de milliers, 400 000 personnes. Il avait été au Bernardin, vous savez, devant toute l'intelligentsia française, qu'il avait admiré incroyablement pour son discours au Bernardin. Et puis, quelques mois après, il devient...
Pour celles et ceux qui l'avaient compris, le discours?
Oui, enfin, en tout cas, tout le monde faisait semblant de l'avoir compris, c'était déjà pas mal. Et sur Dieu et la culture, et qu'il n'y avait pas de culture sans Dieu. Et puis 2009, 21 janvier 2009, ces fameuses, la levée des excommunications pour les 4 évêques lefévristes, et là...
Décidément, les 21 janvier sont des dates dans l'histoire.
Oui. Et là, une tempête médiatique comme on n'en a jamais vu, planétaire.
Bah, si, celle qu'on a connue quand même avec la manif pour tous, c'était quand même une tempête médiatique.
Oui, mais ça c'était avant. Et après, on en a connu une deuxième l'année dernière, la tempête médiatique. Alors peut-être pas aussi planétaire, même si, et nous allons en parler, les conséquences, effectivement, sont aujourd'hui en train de se voir dans tous les pays. Et je crois qu'effectivement, il s'est levé une opinion publique mondiale à la faveur d'ailleurs, et c'est là où j'aimerais bien qu'on en parle, de cet enseignement de nos papes depuis Jean-Paul II, Benoît XVI et maintenant François. Quelle cohérence aujourd'hui, je trouve, entre ce que nous avons fait, ce que demandent les citoyens et ce que dit le pape François. Eh bien, c'est bien sous l'impulsion de ces papes et de Benoît XVI aussi que nous en sommes aujourd'hui à ce que ce mouvement d'opinion, ce mouvement de citoyens, ce mouvement de Français, mais aussi d'Européens, on en reparlera, est en train de changer la face de la société.
Et pourtant, ça retombe un petit peu quand même, parce que, bon, on se demande comment les choses vont évoluer, mais c'est normal.
Mais c'est tout à fait normal. C'est un mouvement qui s'est levé, c'est un mouvement qui n'était pas prévu, pas encadré par les institutions habituelles, même justement les institutions se sont plutôt opposées toutes sous les ordres du pouvoir.
Elles se sont toutes couchées, là.
Toutes couchées, toutes. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui, je crois, le plus important, mais qui vient encore de cette impulsion de ces hommes, nos papes, qui nous ont demandé de ne pas avoir peur, qui nous ont demandé d'être des gens engagés dans la société, engagés, évidemment, pour moi c'est le cas, mais pour beaucoup d'autres des leaders du mouvement, au nom du Christ. Eh bien, ils ont réussi. Nous sommes en passe, et c'est un chemin de très longue haleine à nouveau, mais nous sommes en passe de continuer ce chemin qui a peut-être commencé en 2005 avec Benoît XVI.
Voilà, en 2005, c'est vrai que j'avais très envie de vous connaître parce que je connaissais évidemment Jalon et tous les pastiches. Mais qui est cette Frigide Barjot?
Qui se cache
maintenant
derrière.
C'est fait.
Mais on va peut-être... Attendez, ça n'est pas fini.
Mais c'est pas fini, absolument.
Nous découvrons en permanence.
C'est une découverte perpétuelle, c'est ça, le mystère des relations humaines. Alors, on va ouvrir quelques dossiers, Frigide. Ce que je vous propose, c'est revoir votre portrait, parce qu'il y a toujours des personnes qui peuvent vous écouter comme ça, qui finalement ne vous connaissent pas forcément très bien.
Pas forcément à l'antenne en 2005, c'est
pas
bien.
Voilà, exactement. Alors, vous êtes né Virginie Merle, ça on le sait maintenant, tout ça, c'est... Oui, j'avais une question d'abord. Est-ce que vous allez rester dans votre logement?
Eh bien, nous sommes...
Une décision de justice le 30 octobre.
C'est ça, c'est pas nous qui décidons. C'est le juge, et j'espère vraiment que ce sera le juge et pas quelqu'un d'autre comme le maire de Paris. Ce sera le 30 octobre au tribunal d'instance de Paris 15e, où le juge d'instance devra dire si effectivement notre dossier de locataire de la régie immobilière de la ville de Paris, que nous avons depuis maintenant 25 ans, est en fait illégal, enfin que nous occupons de façon illégale ou pas. Je dis en deux mots de quoi
Oui, en deux mots, oui, mais qu'on soit fixé.
Vous venez de parler de Jalon. Jalon est une petite société de presse au capital de 306 euros. Hein, c'est pas une énorme multinationale, qui a été fondée par Basile de Kock, donc mon époux, en 1985. Et en 1986, il demande donc à la régie immobilière de la ville de Paris de domicilier, comme on a le droit de le faire, mais il fait la demande, hein, explicitement, de domicilier sa petite société de presse. Évidemment, il n'y a pas des rotatives, hein, dans notre appartement rue de la Fédération. Et il n'y a pas non plus d'accueil du public. C'est simplement que, bah voilà, c'est l'adresse, c'est la domiciliation. Et nous avons l'autorisation écrite de la régie immobilière de la ville de Paris depuis 1986. Alors aujourd'hui, bah, ça nous est contesté. Et on dit qu'effectivement, nous soulouons des locaux parce qu'on se reverse de l'argent. Bah, c'est un peu normal, hein, une société de presse. Heureusement, il y a un peu de rentrée d'argent de vente de nos journaux. Mais surtout aussi, nous facturons des prestations de pige. Nous sommes journalistes auteurs. Mmh. Et la sous-location correspond aux endroits de stockage de ces journaux qui sont donc édités depuis 25 ans. Je rappelle pour ceux qui peut-être connaissent Le Monstre, L'Aberration, Coin de rue Imagimonde, Le Figagaro, etc.
qui a fait les cafards acharnés.
Les cafards acharnés qui ont fait les riches heures de notre jeunesse, enfin un peu plus que notre jeunesse. Et donc, eh bien, il y a 5 caves qui appartiennent non pas à la ville de Paris, mais à Virginie Merle, épouse Télène. Mmh. Et voilà, et à ce titre, nous nous reverrons.
C'est ça qui est contesté. Donc, on voit, il y a une sorte de prétexte.
Il n'y a pas de sous-location, évidemment, dans les locaux que nous habitons. Nous avons fait venir un huissier. Il y a un constat d'huissier qui prouve bien qu'ils sont à destination d'habitation privée. Et d'ailleurs, l'état de l'appartement ne permet pas d'en douter.
Ouais. Et qu'est-ce qui se passe si vous êtes mis dehors?
Il se passe qu'on pourra penser que c'est effectivement une décision de plutôt politique. Mais vous savez, Louis, c'est là où ça prouve effectivement l'importance de notre mouvement. J'en ai été et j'en suis toujours un des représentants peut-être le plus, médiatique. Et en même temps, pas la plus, parce que je sais que plein d'autres sont très convaincus, mais moi particulièrement convaincu. Ma vie entière est donnée à ce combat, vous le savez. Comme nous l'avons rappelé, c'est une conversion. Donc le jour où on décide, qu'on a compris que le Christ menait tout ça, on ne peut pas se détacher de la croix. Et donc, vous savez que j'irai jusqu'au bout, et le bout, c'est l'abrogation de cette loi. Voilà.
Alors, c'est dit.
Alors c'est dit, alors ça veut dire qu'ils le savent aussi, et que peut-être on veut empêcher tout ça au plus haut niveau.
Frigide, une éducation dans les écoles catholiques, vous découvrez un catholicisme fraternel et joyeux, dites-vous. 22 ans, vous débarquez à Paris, vous êtes lyonnaise d'origine. Mmh. Une maîtrise de droit en poche pour intégrer Sciences Po. Vous avez comme prof François Hollande et Pierre Moscovici. Mmh. Quelques souvenirs d'étudiants?
Très sympathique. J'étais déjà rebelle à l'époque face à mes professeurs de gauche. J'étais avec des t-shirts vivement demain avec Jacques Chirac, je suis obligé de le dire, gaulliste déjà dans l'âme, et en mini-jupe aussi déjà, hein, comme on a pu me voir aussi toute cette année. Et François Hollande, notre maître de conférence, un homme... C'est pour ça que j'ai dit plusieurs fois, meilleur professeur d'économie que président de la République, gérant l'économie du pays. Oui. Mais à côté de ça, fort aimable, fort sympathique, fort humain, pas avare de remonter une note en économie pour permettre d'obtenir le diplôme final à la dernière session, ce qui était mon cas. Voilà. Après ma quatrième session grand oral, j'aurais pu ne pas avoir mon diplôme, mais je l'ai eu. Je crois qu'il n'est pas totalement étranger à cela.
Bravo. En 94, vous épousez Basile de Kock, avec lequel vous avez eu deux enfants, qui sont ados maintenant.
Oui, 15 ans et 12 ans.
Et qui sont... un peu dur pour eux, non?
Écoutez, ils sont à l'école publique. Ils sont au collège Buffon pour Constance et à Victor Duruy pour Bastien. Eh bien, je tiens à vous dire que non. Alors, c'est un quartier où on nous connaît bien, puisque ça fait donc 25 ans que nous y vivons. Et effectivement, les gens ne savent que ce sont nos enfants.
Mais est-ce qu'ils voient leur père et leur mère?
Ils voient tout le temps leur père et leur mère, parce que sans doute, notre appartement n'est pas un local d'exploitation de nos journaux. Mais en tout cas, c'est là que nous y vivons, travaillons. Et vous savez, aujourd'hui, avec des ordinateurs et Internet, c'est comme ça que nous avons pu aussi organiser plein de choses pour cette année.
Donc le lien parent-enfant subsiste?
Ah ben, ils sont tout le temps là. C'est-à-dire qu'ils vivent tout. C'est vrai qu'ils nous demandent, enfin moi en particulier, maintenant dans le métro et quand on va voir un concert avec Constance, notamment au Zénith, on est allé voir une de ces chanteuses de jeunes filles, vous voyez, elle me dit « Maman, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais passer un petit peu discrètement auprès des gens ?» Voilà. Et c'est vrai que je me suis retrouvée au concert de Selena Gomez avec des jeunes filles de 17 ans et de 15 ans. Et on m'a un peu reconnu. Eh bien, c'était étonnant. Parce que là aussi, des jeunes venaient me voir en me disant « Mais pourquoi vous n'aimez pas les homosexuels ?» Et on se mettait à discuter. Voilà. Et très vite, ils comprenaient que ça n'avait évidemment rien à voir.
Et on était dans le rapport de force ?
On était d'abord un peu dans l'agressivité, mais beaucoup moins que l'année dernière. Hein. Je crois que le message est en train vraiment de passer aujourd'hui auprès de la population. Mais quand même, des tas de choses ne sont pas comprises. Et puis, en commençant à discuter, en expliquant bien que la problématique n'est pas celle des personnes homosexuelles qui s'aiment et qui veulent vivre ensemble, mais évidemment des enfants et de la façon dont on va les engendrer, à ce moment-là, beaucoup... étaient d'accord, ou alors nous m'expliquaient qu'elles avaient elles-mêmes effectivement des problèmes avec leurs parents, ne connaissaient pas leur père ou leur mère, et que c'était un vrai problème pour ces jeunes.
Alors Frigide, je continue puis on va passer à votre portrait. Égérie des nuits parisiennes, vous avez vite l'impression que votre vie part dans tous les sens, vous éloignant un peu plus de la foi jusqu'à, on va remonter un peu dans le temps, votre coming out catholique, Marion Duchesne.
Et Frigide Barjot d'évoquer les homélies du cardinal Lustiger à Notre-Dame. Je crois que c'est à lui que je dois d'avoir vraiment compris que cette aspiration naturelle vers le haut, le bien et le beau, ce n'est rien d'autre que la voie de Dieu. En 2004, après un pèlerinage à Lourdes, elle se proclame attachée de presse de Jésus. 5 ans plus tard, Frigide Barjot prend la défense de Benoît XVI et recueille plus de 30 000 signatures pour « Touche pas à mon pape ». Novembre 2012, la voilà à passionnariat de la Manif pour tous. Janvier, février, mars 2013, Frigide Barjot est à la tête de tous les cortèges jusqu'au jour où elle décide de dire stop, refusant de participer à la manif du 26 mai. J'ai senti la radicalisation du mouvement, une radicalisation souhaitée par le gouvernement. C'était trop violent, explique-t-elle, ajoutant que la problématique n'est pas l'union homosexuelle, mais la filiation. Blessée, Frigide Barjot, profondément, mais de nouveau prête à combattre. Elle crée l'avenir pour tous, défend l'union civile sans adoption et le référendum. Objectif, être un intercesseur entre le citoyen et le gestionnaire de la cité, inscrire la modification de la loi Taubira dans le programme des candidats. En ligne de mire, bien sûr, les prochaines élections municipales. Frigide Barjot est déjà dans les starting blocks, mais qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas de faire de la politique. Je fais de la pôle éthique, répète celle qui se dit plus que jamais portée par la force de Dieu et par les témoignages des gens qu'elle rencontre. Certains me disent que je suis courageuse, d'autres prient pour moi. Et quand on lui demande si elle n'a jamais songé à tout laisser tomber, Frigide Barjot lance sa fleur de peau. La loi est passée. Dans 2 ans, on fabriquera des enfants. En conscience devant mon créateur, je ne peux plus m'arrêter. Ce n'est plus possible. Même la plus pauvre, même sans rien, conclut Frigide Barjot, ce n'est pas une histoire de pouvoir, mais de vérité.
Et elle est en Marseille ce matin dans notre studio. www.radionotre-dame.net, vous pouvez regarder
est-ce
d'ailleurs.
Est-ce que vous voyez bien, c'est pas un Marseille, c'est notre nouveau t-shirt,
l'enfant. Ah non, c'est un Marseille officiellement, si quand même, c'est avec les petites bretelles. Excuse-moi. L'enfant est un acte d'amour, pas un acte d'achat. Voilà.
Je dirais, ça c'est pour l'avoir un peu percutant.
Avec 3 médailles
cette
aussi.
Cette phrase, c'est l'enfant, évidemment, est le fruit d'un acte d'amour, et si possible, de celui de ses parents.
Alors Frigide, on ne va pas contester cela évidemment sur notre antenne. On va essayer, il y a plusieurs sujets d'actualité, j'aimerais vous y faire réagir. D'abord il y a une pleine page dans le Figaro avec Dominique Bertinotti qui avance ses arguments sur la famille.
La famille arrive.
Les sages qui vont se prononcer demain sur la clause de conscience des maires, donc ça nous amène évidemment au municipal, on va essayer d'en dire un mot. Mais je voudrais revenir à cette manif du 26 mai, ce 23 avril, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, il y a peut-être un immense sentiment de confusion. Savoir aujourd'hui où en est-on précisément de cette mobilisation. Il y a deux fronts qui semblent se faire la guerre, plutôt que de définir une priorité qui est celle des options gouvernementales.
Alors, la guerre certainement pas. En tout cas, il n'est pas possible d'avoir, on ne va pas se raconter des histoires avec Ludovine de la Rochère et avec la Manif pour tous, il n'est pas possible d'avoir créer et d'avoir porté ce mouvement ensemble dans une complémentarité de talents qui était extraordinairement fructueuse. Et de dire qu'on
qui ne s'est jamais vu, hein. C'est une prouesse inouïe ce que vous avez réussi à faire, faut le reconnaître, médiatiquement parlant.
Mais jamais, mais pas que médiatiquement. Louis, il y a des millions de Français derrière nous. Et il y en a encore. Mmh. C'est bien ça l'importance. Alors, simplement, il y a des options aujourd'hui qui sont différentes depuis le vote de la loi.
23 avril.
23 avril, nous avons effectivement bifurqué sur l'objectif parce que nous bifurquons sur le fondement de finalement du projet. Il était évident que le 17 novembre dernier, et nous arrivons au 17 novembre un an après, quand nous avons pris cette décision que personne ne voulait suivre, de faire une manifestation, parce que Civitas sinon l'aurait fait en premier sur, et aurait été l'initiateur du mouvement de contestation, donc ça l'aurait enfermé dans une radicalisation.
Ça, la première manche, pas de doute, elle a été remportée, si
oui,
je puis dire.
Oui, mais sur quelle base, cher? Nous en avons discuté. J'ai posé la question à ces personnes qui étaient autour de nous à cette fameuse réunion du 5 septembre. Enfin, il y en avait d'autres en plus de gauche qui sont venus.
Qui a lancé le mouvement.
Jean-Baptiste de Foucault, de l'Esprit Civique, il y avait aussi les Poissons Roses, etc. Cette fameuse réunion qui n'avait rien de secret, je tiens à le préciser, j'ai lu ici ou là que c'était des comploteurs secrets, ça n'avait rien du tout de secret, tout le monde était au courant. Et les seuls qui ont voulu prendre, enfin la seule qui a voulu prendre les choses en main au moment de cette annonce du 18 novembre de Civitas, c'est Ludovine de la Rochère, Fondation Le Jeune, fondation qui ne cache pas ses idées sur la défense de la vie de façon assez radicale. Et les gens qui étaient autour de Ludovine sont des gens qui ont été contre le PACS en 99. La question a été posée très clairement. Où en êtes-vous aujourd'hui avec le PACS? Est-ce que c'est acquis, oui ou non? Je rappelle que moi-même, j'étais pour. Puisque pour moi, il n'a pas de problématique autre que religieuse, mais nous nous citons bien dans la cité laïque et la cité républicaine. Le couple homosexuel, était-il un problème pour eux? Il m'a été répondu que non. Et que même l'union civile, j'en ai parlé aussi avec Christine Boutin, aurait dû être faite par Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc, couple homosexuel, PACS, union civile, n'est un problème pour personne, même pour des militants pro-vie.
Donc pour vous, tout le monde était d'accord jusqu'au 23 avril.
Tout le monde était d'accord, c'est pour ça que nous lançons, et je rappelle que c'est Ludovine qui a trouvé cette excellente formule de manif pour tous homosexuels compris, qui veulent pas de mariage, mais s'engager dans la stabilité avec des lois, des règles de vie patrimoniale, sans problème, mais sans adoption. Et puis, la baseline était bien, tous nés d'un homme et d'une femme. Tout le monde était d'accord, et c'était le plus rassembleur, que la problématique, c'était l'engendrement, qu'il ne fallait pas changer.
Alors
dans
pourquoi la
loi.
Fusée a-t-elle explosé en vol le 23
Parce
avril?
Parce que manifestement, compte tenu de la massification du mouvement, donc de son importance, donc de son pouvoir face au pouvoir institutionnel, il y a eu des appétits qui sont nés en se disant on peut peut-être emmener le mouvement ailleurs et autrement. Donc il y a finalement, après le vote de la loi, nous nous étions, enfin plus exactement, soyons clairs, avant le vote de la loi, nous étions mis d'accord avec Ludovine, qui donc parlait plutôt au réseau catho. Donc qui étaient venus aussi avec leurs convictions catholiques. J'ai des convictions catholiques, mais je viens plutôt du monde et de la société civile, de la société politique, je vous dis, gaulliste,
voilà.
Sciences Po, etc.
Vous, c'était les médias et l'extérieur.
Donc, nous parlions à l'extérieur. C'était très important, mais c'était très important de fédérer les réseaux des AFC, à Vita, même au réseau de paroisse. Hein,
oui.
Et de les unifier. Nous avons réussi ça sous la houlette de Ludovine, qui restait évidemment en back-office pour organiser tout ça avec Albéric et avec d'autres. Bien.
Albéric Dumont qui organise les manifs.
Albéric Dumont, bah écoutez, on peut pas dire, allez, demain on fait une manif et on espérait au moins 50 000 personnes. Je me souviens, j'en ai parlé avec Jean-Pierre Denis, il disait, si vous faites 50 000, c'est vachement bien. On était 200 000 hein, pour le 17 novembre. Bien, il fallait quand même savoir trouver des volontaires.
Oui, bien sûr, mais ça personne, c'est sûr, ça a été très bien fait.
Bon, ça, c'est une organisation formidable et en même temps un porte-parole là. Donc une émission dans la société compréhensible.
Mais pourquoi le 23 ça c'est parti en vrille?
Parce que si vous voulez, il était prévu qu'à partir du moment où la loi était votée, elle devait s'appliquer. Ça, c'est ma conception des choses. Je suis républicaine et c'est la conception de la majorité, et notamment des élus aussi qui nous ont suivis. C'est peut-être pas forcément la conception de tout le monde. Il faudra la faire préciser. Et une fois que ça s'applique, l'union est acquise, vous comprenez, de façon légale. Donc ce qu'il faut faire après, c'est réformer la loi, mais aller plus loin, protéger de façon supérieure la filiation. Donc nous étions d'accord avec Ludovine sur cette évolution, que nous allions dire, maintenant que la loi est votée, il faut demander à ce qu'on ne touche plus à la filiation en portant dans la Constitution, et donc toute la manif et tout le monde devait porter ça ensemble, dans la Constitution, le fait que le mariage, c'est l'union de l'homme et de la femme, et qu'il faut laisser un statut au couple homo aujourd'hui, qui est allé jusqu'au mariage en mairie, dans un statut d'union civile qui existe, qui est cette fameuse alliance civile qui a été débattue tout le mois de janvier.
Et c'est sur l'alliance civile que les choses vont achoper.
Et alors, ça va achoper, mais non pas de façon, comment vous dire, non pas de façon concertée, mais plutôt de façon vécue au cœur des manifestations, avec des gens qui viennent hurler non à l'union civile, avec des banderoles logotées manif pour tous. Si vous voulez, c'est devenu un peu violent. Et ne voulant pas, alors que déjà Manuel Valls, le gouvernement, disait « ça se radicalise, ça devient violent, etc. », je n'ai pas voulu être présente pour rajouter un point de cristallisation, de crispation.
Vous le regrettez ou pas? En deux mots.
Pas du tout.
On se retrouve après 8h. Vous regrettez de ne pas avoir été présente le 26 mai?
Pourquoi? Parce que le 26 mai, la manifestation a été pacifique et extraordinairement calme. Et je n'ai pas été le ferment d'un état de violence de gens qui auraient voulu instrumentaliser l'affaire de l'union civile pour faire de la violence.
Vous êtes sacrifié sur l'autel de la paix civile.
On peut dire ça comme ça, mais c'est vous qui le dites. C'est vrai, c'est resté pacifique. Le vrai mouvement s'est vu pacifique jusqu'au dernier moment. Et maintenant, on repasse à une autre phase aujourd'hui.
C'est ça.
On est en évolution. Deuxième phase.
Le grand témoin revient. Frigide Barjot, vous restez avec nous. On se retrouve après 8h.
Chaque semaine, le cardinal André 23 analyse les événements qui font l'actualité. L'entretien du cardinal, c'est tous les vendredis à 21h30 et le samedi à 8h47 sur Radio Notre-Dame.
Chaque tapis est une pièce unique. Il a son histoire, son style, son caractère.
Depuis 3 générations, la Clinique du Tapis restaure dans les règles de l'art tous vos tapis et vous propose un service de nettoyage haut de gamme réalisé à la main. Déplacement à votre domicile et devis gratuit. La Clinique du Tapis, pour offrir une nouvelle vie à votre tapis.
25 rue Bellechasse, Paris 7e et 75 rue Michel-Ange, Paris 16e. 01 40 71 53 06. Agréé Assurance.
La Minute Spirituelle du Père Alain Caron de la Carrière.
Nos ancêtres dans la foi furent de grands témoins de l'amour de Dieu. Par exemple, dès l'an 100-107, saint Ignace d'Antioche, qui fut évêque et qui mourut comme un martyr, prenait pour lui-même ce psaume 121 que je voudrais vous faire entendre. Nous irons dans la joie vers la maison de Dieu. C'est pour nous aujourd'hui d'aller vers la maison de Dieu. Mais un jour, ce sera le grand départ où nous irons vers le Seigneur. Nous irons dans la joie vers la maison de Dieu. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. La Jérusalem céleste, bien sûr. Nous sommes en marche dès maintenant vers le Seigneur. Mais tous ceux qui rentrent, par exemple, par le baptême dans l'église, ils entrent dans la maison de Dieu. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est le siège du droit, le siège de la maison du Seigneur. Oui, nous irons dans la joie, vous entendez, vers la maison du Seigneur. Notre marche est une marche rayonnante de joie et de bonheur.
Merci frère Alain Caron de la Carrière. Quel avenir pour la mobilisation contre la loi Taubira? Elle a dominé ces mois derniers qui se sont écoulés. On y revient avec Frigide Barjot qui préside l'avenir pour tous. Elle est notre grand témoin ce matin. L'interview de Dominique Bertinotti dans les pages du Figaro. Les sages qui vont se prononcer demain sur la clause de conscience des maires. L'avenir avec les municipales aussi. Quelle situation, quelle position par rapport aux politiques? On y revient avec Frigide Barjot. Après la météo d'abord de Flora Cortès.
Le ciel sera variable aujourd'hui. On aura le droit tout de même à de belles éclaircies entre deux passages nuageux et les températures seront assez douces. Il fait 10 degrés ce matin. Pour le reste de la journée, comptez 18 degrés.
Et après les infos, ainsi que l'édito de Gérard Leclerc à 8h03. Flora Cortès d'abord, puisqu'il est 8h.
Bonjour à tous. Les États-Unis sortent tout juste de leur crise politique grâce à un accord budgétaire à l'issue de 16 jours d'affrontement entre les républicains et les démocrates sur le budget de la dette. L'accord conclu in extremis au Sénat écarte le danger d'un défaut de paiement de la première économie mondiale. Ce compromis provisoire prévoit le relèvement du plafond de la dette jusqu'au 7 février et la réouverture jusqu'au 15 janvier des agences fédérales partiellement fermées depuis le début du mois. La Maison-Blanche a appelé tous les fonctionnaires fédéraux à reprendre le travail dès aujourd'hui. Enfin, selon Standard & Poor's, cette crise aura coûté 24 milliards de dollars aux États-Unis. En Italie, les obsèques du criminel nazi Heinrich Priebke ont été annulées après des incidents. La situation tourne au casse-tête pour l'Italie qui a marqué hier le 70e anniversaire de la déportation des Juifs de Rome. Les funérailles religieuses qui devaient être célébrées la veille à l'Institut Saint-Pidis près de Rome ont été annulées en raison de la présence de néo-nazis. Quelques jours avant, le Vatican avait fait interdire des funérailles religieuses dans une église de Rome. Aujourd'hui, ni l'Allemagne, son pays natal, ni l'Argentine, où il a vécu caché pendant plus de 40 ans, ne veulent de la dépouille. En France, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls a été l'objet hier de vives critiques de la part de la gauche après l'expulsion par la police d'une collégienne rome kosovarde interpellée lors d'une sortie scolaire. Le 9 octobre, Leonarda, 15 ans, a dû descendre du car dans lequel elle se trouvait avec ses camarades de classe pour rejoindre la police. Celle-ci a ensuite reconduit à la frontière toute la famille qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Manuel Valls a eu beau marteler que l'expulsion de la collégienne s'était déroulée dans le respect du droit, Matignon a très vite annoncé une enquête administrative. Si une faute est démontrée, cette famille reviendra en France pour que la situation soit examinée en fonction de notre droit, de nos pratiques et de nos valeurs, a assuré le Premier ministre. Le président français s'est engagé hier à accueillir 500 réfugiés syriens en France. C'est ce qu'indique mercredi le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Les modalités de cet accord doivent être discutées dans les prochains jours. L'agence de l'ONU a en effet demandé aux États de l'Union européenne d'accueillir 10 000 réfugiés syriens en 2013 et 30 000 en 2014. La Cour de cassation a rejeté hier le pourvoi formé par l'Église de Scientologie contre sa condamnation en appel pour escroquerie en bande organisée, une décision qui rend cette condamnation définitive en France. L'organisation va toutefois déposer un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la première fois en France que l'organisation est touchée en son cœur et que c'est la personne morale qui est condamnée, a souligné l'avocat d'une association de lutte contre les dérives sectaires. Enfin, la rédaction de Courrier International, qui fait partie du groupe Le Monde et dont la direction veut licencier près d'un tiers des effectifs, a décidé de reconduire son mouvement de grève jusqu'à aujourd'hui. Cela empêchera donc la parution du journal cette semaine, et ce, pour la première fois de son histoire.
Radio Notre-Dame. Et le grand témoin revient ce matin, Frigide Barjot, après l'édito de Gérard Leclerc. C'est un article du journal Le Monde qui a retenu l'attention de Gérard. Comment les libéraux libertaires ont justifié la pédophilie dans l'Allemagne post-68 arde?
Une page entière dans Le Monde datée d'aujourd'hui, sous la signature du correspondant à Berlin, donne à réfléchir, même si elle concerne ce qu'on appelle la période post-68 arde. On y apprend que les groupes politiques qui se voulaient les plus ouverts à la révolution dite sexuelle ont ouvertement combattu en faveur de la dépénalisation de la pédophilie. On ne s'étonne pas que les libertaires se soient retrouvés sur la même ligne que certains libéraux qui se montraient les uns et les autres influencés par le travail de lobbying d'une association ouvertement favorable aux relations sexuelles entre adultes et enfants. Il faut reconnaître au moins un mérite aux Grünen, c'est d'avoir volontairement ouvert leurs archives à un sociologue non complaisant, Franz Walter, pour faire la vérité sur ces années détestables. C'est Daniel Cohn-Bendit, qui est d'ailleurs à l'origine du processus, rattrapé par la confession qu'il avait fait dans son livre intitulé « Le Grand Bazar » et où il révélait d'étranges relations avec les gosses dont il avait la charge dans un jardin d'enfants autogéré à Francfort. Mais l'enquête met également en cause de grands journaux allemands comme Der Spiegel et Die Zeit, connus comme particulièrement progressistes. Dans les années 70, toute une intelligentsia éclairée s'en prenait à ce qu'on appelait un tabou qu'il faut revoir. Frédéric Lemaître, l'auteur de l'article, conclut en indiquant que l'Allemagne n'était pas seule engagée dans cette peu ragoûtante libération. Les Pays-Bas et la France participaient du même état d'esprit. Le Monde lui-même et Libération avaient publié en janvier 1977 une lettre signée par la fine fleur de l'intelligentsia française pour affirmer sa solidarité avec trois personnes accusées de délits sexuels à l'encontre d'enfants de 13 et 14 ans. Il est bien que la vérité se fasse enfin, mais aura-t-on le courage d'aller plus loin ? En reconnaissant la faille morale, anthropologique de ce courant qui se voulait d'avant-garde et entendait changer le monde en tuant ses principes.
Merci Gérard Leclerc, la suite du Grand Témoin avec vous Louis Dauphren.
Brigitte Bardot, ce matin présidente de l'Avenir pour tous, faille morale, changer le monde, justement. On y revient, mais sous l'angle de la mobilisation qui a dominé les mois qui nous ont précédés, il y a un an même. Nous étions déjà dans une dynamique sur laquelle on s'interroge toujours aujourd'hui, en tout cas pour l'avenir. Parce que vous nous avez dit, Brigitte Bardot, qu'il y avait eu une divergence le 23 avril, la question de l'Union civile,
est apparue. Qui est remontée devant d'abord la radicalisation du pouvoir et ensuite la grandeur, le pouvoir qui s'opposait au pouvoir institutionnel.
C'est ça. Et puis il y a une forme d'intimidation aussi. Les choses étaient montées en degrés à une telle température que peut-être il fallait calmer le jeu. C'est en tout cas ce que vous êtes dit.
Je pense qu'il faut recentrer le débat et recentrer la mobilisation. Mais il est logique aussi que dans des mouvements populaires de très grande ampleur comme celui-là, pour ne pas dire révolutionnaire au sens de contre-révolutionnaire par rapport au pouvoir établi, eh bien les partis qui sont plus aux extrêmes pèsent sur les plus centristes, on va dire les choses comme ça. C'est Éric Nolot avant-hier chez Nolot et Zemmour qui disait que c'est l'évolution logique d'un mouvement révolutionnaire. Les plus ultra poussent les plus centristes en général, et ça s'est vérifié notamment en France assez régulièrement. Nous ne sommes pas dans la violence, heureusement, avec Ludovine et avec les associations plutôt pro-vie, nous ne sommes évidemment pas dans une violence et une...
Donc il n'y avait rien à craindre de ce côté-là.
Si, il y avait à craindre parce qu'il y a quand même des groupuscules extrémistes qui en profitent. Écoutez, à Lyon, je suis désolé, je reviens là-dessus, mais c'est le GUD qui avait pris ces affiches qui ont été imprimées, on ne sait toujours pas par qui, est-ce que c'est par eux, bon, en tout cas très logotés et qui disent très clairement les choses, union civile, arnaque civile. Comme aujourd'hui, effectivement, c'est contesté aussi au sein de la manif pour tous.
Est-ce que ce n'était pas une manipulation pour vous dégager, justement ?
Si, c'est ce que je vous dis.
Oui, donc vous avez d'une certaine façon cédé à cette intimidation.
Non, je n'ai pas cédé, parce qu'en fait, j'ai préféré encore une fois botter en touche et préserver l'avenir. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Au moment, j'avais pas les moyens de rentrer dans le combat, le conflit physique devant des centaines de milliers de personnes et devant des caméras et devant les télévisions et toute la presse qui nous suivait. Ça aurait été signer l'arrêt du mouvement dans la violence. Donc il faut le préserver. Je tiens à dire une chose, le mouvement il est peut-être pas mobilisé visiblement aujourd'hui, mais vous savez très bien qu'il y a encore énormément de gens qui attendent justement qu'on trouve une direction commune.
Ben voilà, on est là pour ça justement, pour leur donner cette direction.
Alors cette direction...
Enfin, pour que vous leur donniez... J'ai juste une question avant quand même. Essayez de me répondre franchement. Est-ce que vous n'avez pas été...
été franche oui.
Est-ce que vous ne vous êtes pas dit franchement, je suis la personne qui est tout perdue dans cette histoire parce que d'un côté, je m'entendais bien quand même avec les milieux parisiens, de la nuit, de la mode, etc. Et cela maintenant me tourne le dos.
Ah, ça c'est certain.
Voilà. Et je m'entendais bien avec les milieux catho.
Qui me tourne le dos
aussi parce que. Donc je me retrouve au milieu sans rien. C'est vrai ça, c'est quand même dur à vivre. Après tout ce que vous avez donné.
C'est vrai que c'est dur à vivre, on va pas se raconter l'histoire. Je suis aujourd'hui sans revenus, avec beaucoup d'amis qui sont partis, des très proches. Vous savez, je considérais Ludovine, et je la considère toujours d'ailleurs jusqu'à la prochaine fois, comme une vraie amie. D'autres encore aujourd'hui montent des nouvelles associations dans la suite de ce mouvement et donc m'ont quitté aussi. je suis plus fédératrice comme avant, si vous voulez. Mais pour autant, je reste persuadée, et je l'ai vérifié à Nantes hier, avec notamment, d'abord, regardez, Famille de France, Henri Joyeux, voilà, une nouvelle amitié qui naît, et sur le bon sujet de la loi famille qui arrive. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se recréent et qui sont en phase de se reconstituer avec d'autres. Il y a un temps avec certains, un temps avec d'autres, et nous aurons le temps d'être tous ensemble prochainement.
Donc, ça peut se renouer.
Mais bien, enfin, oui. Écoutez, moi, vous n'allez pas m'enlever cet espoir-là, bien sûr que non, évidemment. Mais pour en revenir à la réalité, c'est qu'à Nantes, il y avait 400 personnes. Ce qu'il y a une semaine à Paris, il y avait au Théâtre Saint-Léon, où le curé a eu la gentillesse de nous laisser cette grande salle, eh bien, il y avait aussi quasiment 300 personnes, avec quasiment pas de pub. Et là-dessus, tous les sondages d'opinion aujourd'hui, tout ce qui concerne cette problématique qui est extrêmement importante de la famille, nous allons dans le sens de ces sondages d'opinion. Je reprends très vite. L'adoption, 55% des Français, l'adoption par les personnes de même sexe, 55% des Français sont contre. Et on va en reparler avec la loi famille. L'union civile, qui était sous le faux terme, le terme qui était détourné de mariage, l'union civile entre personnes de même sexe, en mairie, 54% pour, ils appelaient ça le mariage. On a tous les sondages, 54% pour le mariage, mais contre l'adoption. Bah, c'est ça, c'est que c'était
ça, c'est
un mauvais
position.
Terme. Voilà. Donc, nous représentons ces Français-là. Sur la liberté de conscience des mères, 54%, le collectif des mères pour l'enfance, on fait un sondage, 54% des mères, des Français sont pour cette liberté de conscience des mères à inscrire dans la loi.
Que le Conseil constitutionnel se prononce sur la question.
Voilà, et doit dire si oui ou non la circulaire qui met les mères en état d'être sanctionnées parce qu'ils ne marient pas est illégale ou pas.
Vous irez rue Montpensier pour.
Alors
assister.
Ça sera, mais je crois pas qu'il y a un rendu public. Ça sera sur le site demain à 10h sur le site du Conseil constitutionnel.
Il n'y a pas de happening prévu.
Je ne pense pas qu'il y a un happening. Enfin, en tout cas, non, nous a priori, nous serons devant notre site. Notre ordinateur pour réagir immédiatement.
Vous avez toujours la niaque pour justement surprendre.
Pour surprendre,
mais surprendre les caméras, surprendre les médias, ça a marché quand même.
Mais bien sûr, mais parce que nous sommes toujours là, enfin, nous étions là où on ne nous attendait pas. Je vous rappelle que personne n'y croyait. Vous savez, en mois d'octobre, c'est pas la manif pour tous qui n'existait pas encore, les statuts n'étaient pas déposés, qui a déposé le premier parcours du 17 novembre de D'Enfer aux Invalides. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de candidats pour, sur son nom personnel, déposer le statut. J'y suis allée, en mon nom de Virginie Thélène, mère de famille, agitatrice médiatique, et j'ai déposé en mon nom propre, s'il y avait eu un incident, c'était sous ma responsabilité, j'ai déposé pour 10 000 personnes. Bon, évidemment, tout ça, c'était Albéric qui m'a dit comment faire, mais c'est moi qui l'ai fait. Et nous avons été 200 000. Mais cette manif, elle s'est faite, s'il y avait eu le moindre incident, vous comprenez, j'étais responsable. Eh bien, je me sens toujours responsable de ce qui va advenir à tous ces Français. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve aujourd'hui le moyen de nous réunir pour lutter efficacement.
Alors, que peuvent-ils faire ? Ceux qui nous écoutent, là, qui vous écoutent ?
Vous êtes là, j'espère que vous êtes encore tous là et que vous n'êtes pas démoralisés ni que vous ne perdez pas espoir,
non,
chers
non,
auditeurs,
non, non, non.
Parce que vous savez que notre détermination est intacte, qui que nous soyons.
L'espoir.
On voit partout. Tugdual, il fait écologie humaine. Ludovine, à la tête de la manif, va faire des réunions au sujet de la... Elle a commencé hier au sujet de la loi famille. Nous-mêmes... mon ami Arnaud Boutéon lance ce sens commun auprès de l'UMP pour peser sur les programmes. Et ça, j'en suis très...
Il faut aller à l'UMP pour justement...
Moi, je ne crois pas.
Influer sur les politiques.
Je pense que certains peuvent aller à l'intérieur, mais attention à ne pas devenir de l'UMP et plus du mouvement, si vous voulez.
Ouais.
C'est certainement une façon d'exprimer le mouvement à l'intérieur pour être au plus proche des politiques et peser sur les programmes. Je suis très heureuse d'une certaine façon qu'Arnaud fasse ça, qui s'était occupé, vous savez, de l'équipe Barjot Team et il était très proche de moi et j'espère qu'on le sera encore et qu'on sera coordonné pour cela, puisque
c'est le point qu'il révèle, hein, cette
voilà,
histoire.
C'était hier, voilà,
sur le point, point fr.
Voilà, avec François-Xavier Bellamy et d'autres, il fait une association
politique au sein de l'UMP pour peser sur le programme. Très bien si c'est un relais coordonné. Le problème, c'est qu'il y a une richesse foisonnante de gens qui, selon leur talent, ont repris leur façon d'agir d'avant. Mais attention à ce qu'on ne retrouve pas la division d'avant. Il y a aussi des associations qui ont une expertise, une expérience extrêmement importante depuis des années, je pense évidemment aux associations familiales catholiques dont je suis membre, je pense à Famille de France, je pense à l'Union des familles en Europe avec Dominique Marcilassi. C'est aujourd'hui elle qui devrait être leader dans la réflexion sur la loi famille qu'il faut préparer. Et qu'il faut faire en concertation les uns avec les autres.
Donc ça manque de coordination. Bien aujourd'hui, sûr. C'est ce qu'on constate.
C'est ça.
Et du coup, ça crée, c'est vrai, un certain flottement.
Alors, ce flottement, on peut...
On parle de flottement, pas de démoralisation.
Absolument. Beaucoup cherchent justement à sortir de ce flottement, parce qu'on perd quand même des gens dans la mobilisation. Quand on est dans l'incertitude, c'est humain. Et heureusement, c'est mieux que les marchés financiers qui, eux-mêmes, quand ils n'ont pas le moral, quand c'est incertain, on le moral en baisse. Mais nous, on est dans les valeurs humaines et pas dans les valeurs
boursières,
heureusement. Et c'est beaucoup plus important. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on ne doit pas du tout baisser les bras. Les bras très hauts, tous ensemble, nous avons certaines personnes qui cherchent. Aujourd'hui, je pense à Jean-Jacques Ratto, qui était un responsable Manif pour tous en Belgique et qui vient de la gauche, radical de gauche. Lui aussi, il est en passe d'être exclu par son parti politique. Eh bien, il continue. Qu'est-ce qu'il veut faire, Jean-Jacques ? Il veut nous réunir. Il veut qu'on trouve un terrain d'entente, Manif pour tous, Avenir pour tous. Et je pense que nous sommes complémentaires. Que demande l'Avenir pour tous ? Que cette loi, on travaille à son abrogation positive, donc une réforme, dès maintenant en pesant sur les candidats aux municipales. Comment ? En allant chacun des manifestants que nous sommes et que vous êtes encore...
Avec la charte.
Avec cette charte...
Comme Nicolas Hulot.
Mais c'est... Qu'est-ce qu'on fait ? C'est Tugdual qui le dit, de l'écologie humaine. Eh bien, mes amis, cette écologie humaine, elle... comment dire ?
Est-ce
elle
que vous avez déjà un écho ?
Notre société.
Frigide Barjot, vous avez déjà un retour des candidats ? Vous avez un retour déjà ?
Attendez, on commence, on n'en a pas vu énormément. Mais lundi, jeudi dernier à Paris, Franck Marguin, alors vous allez me dire, oui, c'est le PCD. Mais justement, c'est ça qui est important. Franck Marguin, qui est numéro 2 sur la liste NKM dans le 12e arrondissement, a lu la charte et a dit, eh bien, écoutez, elle me semble très bien cette charte.
C'est pas une surprise.
Eh bien si, parce qu'il y a l'union civile dans la charte. Ouais. Mais tout le monde.
Et NKM va signer ?
Ben NKM, écoutez, honnêtement, si elle ne signe pas, ça serait très étonnant, car elle a porté haut et fort à l'Assemblée nationale le 30 janvier dernier cette fameuse loi d'alliance civile qui était écrite par Daniel Fasquelle et par une juriste qui est avec nous à l'Avenir pour tous, qui s'appelle Clotilde Brunetti-Ponce, qui est par ailleurs la conseillère juridique des AFC, qui conseille les députés de l'opposition. Donc nous avons des projets qui sont déjà existants sur la loi famille, elle est parfaitement déjà au point. Les propositions de loi existent, sont dans
les tiroirs. Mais si elle signe, ça l'empêchera de ratisser à gauche, hein ?
Pas tellement.
Non.
Moi, je crois pas, parce que cette alliance civile se fera en mairie et conserve les droits d'union égaux à la loi de mariage. Simplement, l'adoption est ressortie. Et cette adoption, nous pouvons en reparler à la faveur de la loi famille. Elle peut parfaitement embrayer là-dessus en disant pas d'adoption plénière, ni même d'ailleurs adoption simple pour les...
Vous n'étiez pas favorable à l'adoption simple?
Non, alors, l'adoption simple, je pensais que, comme elle ne remet pas en cause la filiation, l'engendrement et la filiation, elle pouvait être concédée dans une phase, si vous voulez, de décélération par rapport à l'adoption plénière pour les couples de personnes de même sexe. Or, en ayant discuté avec des juristes, je comprends que ça n'est même pas possible. Pourquoi ? Parce que l'adoption simple ne transfère pas le nom ni la filiation, mais il faut qu'il y ait des parents biologiques existants. Or, dans les affaires d'adoption des couples de même sexe, là, les 25 000 enfants qui sont soi-disant concernés, il y en a 75% qui ont des parents biologiques, qui ont un père et une mère. Donc, ceux-là ne sont pas concernés. Et le conjoint de même sexe n'a pas à adopter si le parent n'est pas défaillant ou n'a pas vu son autorité parentale déchue. Comprenez ? C'est simplement une mesure en général quand les parents sont défaillants ou pas là ou pas en mesure d'élever leurs enfants. C'est tout. Donc c'est pas possible dans notre occurrence des couples de personnes de même sexe, des couples homo, parce que en fait une des branches filiatives est manquante. Mmh. Vous comprenez ?
Donc votre message, Frigide, ça veut dire pas d'adoption.
Ah mais ça c'est très clair.
Absolument clair.
Maintenant, je sais. Peut-être que j'ai eu.
Non, mais il y a eu un peu d'aller-retour.
C'était pas un aller-retour. L'idée, c'est que de mariage, on doit passer à un statut d'alliance dans un contrat de droit privé qui est pas une institution, parce que ces gens ont été mariés.
Ça d'accord. Vous êtes favorable. Contrairement à la manif pour tous.
Voilà.
Parce que la manif. Maintenant, ça n'empêche
pas
d'aller.
Elle dit, on retirera la loi, on l'abrogera, et les couples de même sexe n'auront aucun statut après. Mmh. Comprenez que c'est trop radical, et que ça clive la société, et que moi, de mon point de vue, même avec mes convictions religieuses, je pense qu'il faut mettre l'homme avant le dogme. Voilà. Et donc, laisser cela sans toucher à l'homme dans son engendrement, justement, donc sans changer l'engendrement humain. Voilà le plus important. Maintenant, pourquoi pas d'adoption ? Je pensais qu'on pouvait passer de l'adoption plénière à une adoption simple, en tout cas en effet d'annonce. J'apprends que juridiquement, même cela ne serait pas possible. C'est pour ça qu'il va falloir contester cela dans la loi famille. Il y a des choses très précises déjà aujourd'hui que prépare Madame Bertinotti, notamment un contrat. L'enfant deviendrait objet d'un contrat de parentalité. Oui. C'est clair que ça, c'est et pour les familles recomposées, mais aussi pour les familles de même sexe. Enfin, les personnes de même sexe qui élèvent un enfant avec une mère biologique, par exemple. Écoutez, un enfant n'est certainement pas un acte d'achat, mais c'est pas non plus l'objet d'un contrat. Il a deux seuls parents, et c'est cela que nous voulons faire, et c'est cela qu'on peut retrouver une unité.
Là, vous êtes d'accord avec Ludovine de la Rochère.
Mais évidemment.
Donc, vous pouvez y aller ensemble là-dessus.
C'est ce que j'allais dire. Mais comment? Sur une base de propositions qui ne nie pas les associations familiales qui ont déjà travaillé. Donc, que certains aillent faire le Grenelle de la famille, mais qu'on porte tous ensemble cette demande auprès des politiques de porter la constitutionnalisation du mariage homme-femme et des droits de l'enfant à avoir un père et une mère.
Ça pourrait réunir tout le monde.
Voilà.
Que le mariage entre dans la Constitution
par un référendum d'initiative partagée. Nous sommes absolument majoritaire à 60% ou plus de 60% là-dessus.
On a compris.
J'appelle que pour le premier anniversaire de notre grand mouvement, le 17 novembre, on puisse faire une journée à Paris, tous ensemble, là, autour de cette idée-là. Ou un grand rassemblement, on n'a pas le temps, attendez, il faut qu'on se mette d'accord.
Donc grand rassemblement à Paris.
À Paris, dans
autour de la constitutionnalisation du mariage.
Une journée pour des états généraux ou un Grenelle de la famille sur l'adoption.
Ouais.
Et sur les bases même de ce que doit être la filiation, qui doit rester biologique.
Alors,
après les moyens d'action, certains font des réunions et puis d'autres vont voir les candidats. Voilà, avec la loi d'alliance civile, mais tout le monde n'est pas obligé de la porter.
On se quitte normalement à 24 ou 25. Je demande à Jean-Paul qui est derrière la console parce que 26. On a un petit son
trop
à passer.
Faire.
Mais on avait demandé à des personnes dans la rue, tout simplement, des kidam sur le macadam, ce qu'ils pensent de Frigide Barjot si elle doit faire de la politique. On le passe ce son, Jean-Paul. Allez, on y va.
Ce n'est pas une personne inconnue pour moi, parce que je suis allée à toutes les manifestations. Elle était courageuse, sur un plan éthique indispensable. Elle a eu le courage de le faire. Est-ce qu'elle a une position politique ? Il m'est difficile d'y répondre. Je ne sais pas.
Elle peut heurter un peu au départ. Mais finalement, moi j'ai assisté à 2-3 meetings. Elle était très efficace. Elle a beaucoup de voix, ça c'est sûr. Elle a des arguments, la parole facile.
N'a-t-elle pas manqué de courage lors de la dernière manifestation où elle n'est pas venue ? De toute façon, elle ne m'a pas manqué, car je suis un des chrétiens théologiens qui n'est pas d'accord avec elle et qui pense qu'il faut risquer l'aventure des familles différentes.
Elle a bien su gérer son image, mais je pense qu'elle était aussi sincère dans sa conviction. Disons que c'est un mélange habile de gestion de son image et de ses convictions. Je n'ai pas le sentiment qu'elle peut avoir un positionnement politique parce que ses prises de position étaient vraiment orientées par rapport à un projet bien précis. De là à transformer cet positionnement en une revendication politique plus générale, il y a un gros travail qu'elle n'est peut-être pas en mesure d'accomplir, en tout cas elle seule.
Voilà, des personnes comme ça interrogées.
Oui, alors
vous
le dernier,
bien quand même. Hein
le dernier monsieur, oui, bah tant mieux, bah, parce que c'est vrai que.
Non, mais bien, c'est-à-dire bien qui vous analyse. Hein.
Oui, tout à fait. La dernière personne pense que ça n'est pas un moyen qu'on peut transformer en demande politique notre demande de réforme positive de la loi. Je crois au contraire que ça, il faut transformer ces municipales, puis après les européennes, puis je vous rappelle qu'il y a des sénatoriales, donc les maires qui seront élus éliront et pourront faire basculer le Sénat dès septembre 2014 et donc refaire la loi. Je pense que c'est au contraire la façon de transformer ces municipales. On a déjà une nouvelle majorité en France. Il y aura une vague bleue, on va pas se la cacher, mais il faut qu'elle soit remplie de la vraie demande des Français qui a porté l'opinion publique et qui a porté notre vie politique toute l'année dernière. Et ben maintenant, nous l'incarnons dans les urnes, mais surtout en commençant par les programmes.
Alors, FN, vous allez le voir ?
Mais bien sûr, nous allons voir tout le monde. Évidemment, je pense que le Front de Gauche va pas nous recevoir très bien. Je pense qu'au PS, ça va être un peu compliqué, mais regardez ce qui se passe au PS. Ils sont dans une situation de très très grande faiblesse politique. Ils peuvent, en tout cas certains, peuvent vraiment nous écouter et nous recevoir. Et nous savons très bien que de l'UDI...
Mais s'ils se plantent aux élections, ce ne sont pas eux qu'il faut aller voir.
Mais le problème, c'est qu'ils... Vous savez, moi, je ne fais aucun ostracisme. Ouais. Nous parlons avec tout le monde, car ces gens représentent aussi une partie des Français. Et tous les Français sont concernés par leur engendrement et la définition qu'on doit donner aujourd'hui de la famille
et Frigide,
à travers la loi famille.
Frigide sur une liste UMP, c'est niet, ou non. Sur une liste du Pont-Aignan, c'est niet.
Alors, écoutez, ça sera vraiment s'il y a un manque absolu de candidats, mais...
Why not,
pour une... Attendez, pour une...
En 10 secondes, Frigide.
Oui, simplement, avec en haut du programme, dans le préambule du programme, que la première chose qu'on aura à faire une fois au pouvoir, c'est de réformer cette loi.
Donc une condition.
Ah bah la condition totalement indispensable, et je rappelle qu'il y a un article à changer dans le code civil, déjà on aura gagné sur l'adoption.
Merci Frigide Barjot, présidente de l'Avenir pour tous. À bientôt.
Retrouvez le podcast.